Alors, nous vivons dans un monde violent. Ma cheville s'en est aperçue hier. Mais c'est surtout sur d'autres points. Quand nous écoutons les informations, nous sommes étonnés d'apprendre les faits et gestes des gens qui nous entourent. Pourquoi l'homme fait-il des choses si méchantes, si dures, si terribles ? J'avais été très frappé par l'histoire récente de la Yougoslavie. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché. Voilà des gens qui ont été pendant des années asservis à un pouvoir autoritaire, qui arrivent à reconquérir leur liberté et qui, à peine cette liberté reconquise, en profitent pour se taper dessus et se faire mutuellement des choses atroces. Et je pense que ça nous révèle quelque chose du cœur humain. Une sauvagerie incroyable. Et là, je parle des autres. Mais quand je regarde dans mon propre cœur, je ne suis pas si étranger que ça, à cette violence. Pourquoi cela marche comme ça? Pourquoi est-ce que l'homme fait ce qu'il fait? Pourquoi l'homme fait-il ce qu'il fait? Vous avez une réponse? Il fait ce qu'il fait parce qu'il est ce qu'il est. Ça semble évident, n'est-ce pas? Si l'homme fait des méchancetés, c'est parce qu'il est méchant. Oui, mon dessin est assez parlant, je trouve. Alors, le corollaire de tout ça, c'est qu'il ne fera pas autrement tant qu'il ne sera pas autrement. Il faut changer, non pas notre façon de faire, mais notre façon d'être. J'aimerais lire avec vous dans les Galates, au chapitre 5. Alors, je vous explique un peu qui étaient les Galates. Les Galates, c'était des gens qui vivaient au nord de ce qui serait la Turquie actuelle. On les appelle comme ça parce que ce sont des Gaulois, en fait. Des gens qui avaient migré de la Gaule et qui s'étaient retrouvés là. Ce sont donc des gens grecs, non juifs, qui habitaient dans cet endroit-là et qui avaient cru dans le message de Jésus-Christ, retransmis par Paul, qui avaient cru donc et qui avaient été débarrassés de leurs péchés, qui avaient fait confiance à Christ pour leur salut. Et puis, du temps était passé, d'autres personnes étaient venues, des Juifs notamment, qui leur avaient dit « Attendez, vous allez un peu vite. Si vous voulez plaire à Dieu, il faut respecter la loi des Juifs. Il faut vous faire circoncire pour les messieurs. Il faut que vous respectiez le sabbat, il faut que vous respectiez les lois sur les viandes pures et impures, etc. » Et voilà des chrétiens qui étaient très troublés et Paul doit leur écrire pour remettre les choses au point. Je lis avec vous donc ce chapitre 5 à partir du verset 1. « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. » Un peu plus loin, verset 5. « Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi agissante par l'amour. » Verset 13. Frères, sœurs aussi, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais si vous vous mordez et dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Juste un petit mot d'explication. Paul dit, c'est pour la liberté que vous avez été libérés. Et il devance un petit peu la réponse qu'on pourra lui faire. Ah bon, on est libre, alors on va pouvoir faire n'importe quoi. Et devançant cette question, il dit au verset 13, vous avez été appelés par la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Donc après, il va nous parler de ce que c'est que vivre selon la chair et de ce que c'est que vivre selon l'esprit. Je dis donc, verset 16, « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » On reviendra tout à l'heure sur ce que c'est que la chair. Ce n'est pas la viande. Hein? « Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. » Et l'esprit en a de contraire à la chair. Ils sont donc opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie. Puis le plus terrible, c'est le dernier. C'est « et choses semblables ». C'est le pire parce que dans mon cœur, il y a sûrement des choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Terrible. N'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est, je dis bien, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Donc dans ce texte, je voudrais surtout vous parler des deux listes que nous avons vues. Ce que produit la chair et le fruit de l'esprit. Ce que produit la chair. Alors, parlons un peu de la chair. Qu'est-ce que c'est que la chair? La chair, sous la plume de l'apôtre Paul, dans ses épîtres, c'est en fait l'homme tel qu'il est quand ce n'est pas Dieu qui le dirige. L'homme dans ses désirs, ses pulsions naturelles. C'est chacun de nous lorsque nous ne sommes pas dirigés par l'esprit. Alors dans cette liste, il y a des choses terribles, horribles, que nous réprouvons fortement. Jamais nous ne ferions des choses pareilles. Mais on trouve aussi des mots qui peuvent bien qualifier ce que nous faisons ou ce que nous trouvons dans notre cœur, même maintenant. Envie, jalousie, parti pris, impureté, sans parler des choses semblables qu'on trouve à la fin. Autre chose de ce genre. En nous, gentils chrétiens, ces choses-là existent. L'apôtre Paul écrivait, on trouve ça en Romains chapitre 7, « Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi. » C'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Un combat est en nous. Voilà expliqué notre interrogation du début. L'homme fait ce qu'il fait parce qu'il est ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il est, l'homme? Il est pécheur C'est-à-dire soumis au péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est de s'affranchir de ce que Dieu veut et de faire sa propre volonté. Vous vous souvenez, Adam et Ève? Vous vous rappelez, Adam et Ève, vous voyez qui c'est? C'était quoi leur péché? La désobéissance? Mais avant la désobéissance, c'était quoi? Il y en a un avant. C'était l'envie. L'envie de pouvoir déterminer eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal. C'était le désir de s'affranchir de Dieu. C'était Dieu qui disait ce qui était bien et ce qui était mal. Mais eux ont voulu avoir cette faculté eux-mêmes, de discerner eux-mêmes ce qui était bien, ce qui était mal. L'homme pécheur, c'est donc un homme rebelle. Rebelle à Dieu, c'est l'insoumis. Est-ce que nous ne sommes pas un peu des insoumis, des insoumises? Comment faire? Alors on va essayer de trouver des réponses dans la deuxième liste. Il est question des fruits de l'esprit. C'est vrai? Il est question d'un fruit de l'esprit. Oui, oui, oui. Donc, non. Le fruit de l'esprit. Alors j'ai choisi un fruit pas trop connu parce que sinon si j'avais mis une orange ou une poire, vous auriez tout de suite dit, le fruit de l'esprit c'est une poire. Non. Enfin, s'il y en a que ça taraude, c'est une carambole. Un curieux fruit quand même. Il y a un fruit, mais il est plusieurs choses. Alors, il y en a un ou il y en a neuf? Parce qu'il y a neuf termes dans la liste. En fait, quand on regarde les termes de la liste, on va les regarder maintenant, cette difficulté se résout facilement parce qu'on voit qu'en fait, ils s'interpénètrent. Ce n'est pas des choses séparées les unes des autres. C'est en fait des aspects du même fruit. Je vous le prouve. Le premier aspect, c'est l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Difficile, hein? Je vous propose que l'amour, c'est la privation de soi. C'est-à-dire, c'est penser un peu, c'est donner un peu pour une fois la priorité à quelqu'un d'autre. L'amour pour les frères et sœurs. L'épître de Pierre dit « Avant toute chose, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. » L'amour, la valeur de l'amour selon Jésus-Christ. Jean 13, verset 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. » Qu'est-ce qui se passe si l'amour n'est pas évident dans un groupe, dans une église? Oui, c'est la pagaille. Je crois qu'il faut être encore plus radical que ça. Si l'amour n'est pas évident, c'est qu'il est absent. Si l'amour ne se voit pas, c'est qu'il n'est pas là. Imaginez que dans un couple ou avec vos parents, où vos enfants vous disent « je t'aime » et qu'il n'y a jamais rien qui montre cet amour, au bout d'un moment on dira « t'es sûr ?» Deuxième caractéristique, la joie. La joie, je vous propose une définition que j'ai trouvée intéressante, c'est la satisfaction de l'âme. C'est joli comme définition. La joie, c'est quelque chose de réversible. C'est-à-dire qu'elle est pour soi et elle est pour donner aux autres. Paul dit dans la première épître aux Thessaloniciens, « Quelles actions de grâce en effet nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet ?» Il écrit aux Thessaloniciens, « Pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. » Si un jour je vous écris, je pourrais dire la même chose. Parce que si je regarde quand même les années passées et les sujets de joie que j'ai eus, dans les sujets de joie que j'ai eus, il y a eu l'Église. Et les frères et sœurs que vous êtes, je vous remercie. J'espère que j'ai pu moi aussi donner un peu de joie. Alors, Paul dit aussi aux Philippiens, « Rendez ma joie parfaite. » Il en a déjà un petit peu et il voudrait encore plus. Hein, vous savez, on est glouton de la joie, on en aime toujours plus. « Rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » La joie, ça se donne et ça se reçoit. Et cette parole de Jésus qui nous est curieusement rapportée dans les Actes, au chapitre 20, qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Voilà la joie, fruit de l'esprit, telle que l'esprit doit nous la donner. Alors il y a la paix. Je vous propose comme définition de la paix celle-ci. C'est l'état tranquille de l'âme, assuré de son salut à travers Christ, qui ne craint rien de Dieu et qui se contente de son sort terrestre. L'état tranquille de l'âme, assuré de son salut à travers Christ, qui ne craint rien de Dieu et qui se contente de son sort terrestre. Alors, peut-être d'autres définitions, mais j'ai trouvé que celle-là était jolie. Et l'apôtre Paul souhaite aux Thessaloniciens cette paix. De Thessaloniciens 3,16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière, que le Seigneur soit avec vous. Quand j'ai regardé le mot paix sur une concordance, je me suis rendu compte que dans toutes les épîtres de Paul, il y a la même phrase. À tous ses interlocuteurs, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix. Il est possible qu'un chrétien ait peur, bien sûr. Mais il ne doit pas céder à la panique, sachant que toutes choses sont dans la main du Seigneur. Cette paix, nous devons la recevoir, l'éprouver, nous devons la communiquer. Et l'apôtre Paul dit aux Romains, au chapitre 12, « S'il est possible, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Voilà le genre de paix que nous devons avoir. La bonté, l'amabilité, la disposition à bien faire, la politesse, être prêt à aider les autres, c'est ça la bonté. Rappelons-nous, Pierre-Yves nous a rappelé que Jean nous avait parlé du bon samaritain il n'y a pas longtemps. Rappelons-nous la fin de la parabole du bon samaritain. Que dit Jésus ? Toi, fais de même. Exerce la bonté envers ceux qui sont dans la peine. La bienveillance. Alors, voyez que les choses se recoupent. On ne peut pas faire de lien, de séparation bien nette entre la bonté, l'amour, la bienveillance. C'est quand même des choses qui se recoupent. C'est pour ça que c'est le même fruit. La bonté morale, l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité, la pureté. Le bienveillant, c'est celui qui a le souci des autres et qui veut leur bien. Jésus a donné ce conseil à ses disciples, Matthieu 7. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Et il ajoute, car c'est la loi et les prophètes. C'est un peu énigmatique, ça veut dire car ça, le fait de faire ça, c'est quelque chose qui va dans le sens de tous les commandements de l'Ancien Testament. Alors vous savez que c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les philosophies, dans toutes les religions, sous une forme négative. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et que c'est une particularité de Jésus d'avoir mis cette phrase sous la forme positive. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Et je crois que ça change beaucoup de choses. Parce que ne faites pas aux autres, ça veut dire, si vous restez les mains dans les poches, c'est bon. Alors que faites aux autres, ça veut dire qu'on n'en a jamais fini. Qu'on peut jamais dire, tiens, aujourd'hui j'en ai assez fait. La foi ou la fidélité, ça dépend des traductions. Être absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà une définition de la foi. C'est celle qui se trouve en Romains 4, verset 21, à propos d'Abraham. Il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Dans l'Épître aux Hébreux, nous avons une autre définition. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et ces paroles de chant que Rebecca nous a fait chanter la semaine dernière à Saint-Albin, nous marchons par la foi et non par la vue. Notre foi doit être comme une espèce de vision qui nous permet d'avancer, même quand nous ne voyons pas vraiment les réalités. La douceur. Paul dit aux Philippiens, il leur recommande que votre douceur soit connue de tous les hommes. Recevoir, je vous donne une définition de la douceur, recevoir avec gentillesse tout ce qui arrive de la part des autres et de Dieu. Et la dernière caractéristique, la maîtrise de soi, se contrôler, être maître de ses désirs et être patient. Paul dit aux Éphésiens, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça paraît curieux comme façon de faire. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ah bon, il y a une façon de ne pas pécher quand on est en colère. Oui, dit Paul, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est quoi être dans un état de péché lorsqu'on est en colère? C'est lorsqu'on la garde. Bon, un éclat, ça peut arriver à tout le monde. Mais cultiver la colère, cultiver la rancune, ça c'est un péché, ça c'est une rébellion. Et l'épître de Jacques nous dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Voilà le fruit de l'esprit, je voulais reconstituer. Alors qu'est-ce que, si on reprenait notre début, l'homme fait ce qu'il fait parce qu'il est ce qu'il est. Vous avez remarqué que dans le fruit de l'esprit, ce n'est pas des choses à faire, c'est des choses à être. C'est notre être qui doit être changé. C'est pas il suffit de donner 3 francs et ça va, tu es démarqué. Le conseil de l'apôtre Paul, c'est de cultiver la bonté, de cultiver l'amour, de cultiver la patience, de cultiver la douceur, et non pas de faire les choses. Dieu ne nous demande pas d'accumuler de la haine en nous, sans jamais le dire, sans jamais le montrer. Il nous demande de cultiver la paix, la bonté, la bienveillance, l'amour, entre nous, mais envers tous les hommes aussi. Shakespeare, ça vous dit quelque chose ? To be or not to be. C'est le seul truc de Shakespeare que je connais. Vous savez, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Être ou ne pas être ? C'est ça la question. C'est pas de se dire, oh ben je vais faire un petit truc pour Dieu. C'est de se dire, comment Dieu veut que je sois ? Alors, vous me direz, ben c'est bien beau, mais il faut changer, comment faire ? La première question, comment se changer ? Comment me changer ? Juste une remarque au passage. Dans un groupe, si vous êtes dans un groupe, quel qu'il soit, et vous avez l'impression que il y a de la friction entre les gens, que les gens ne s'entendent pas forcément très bien, alors ça peut être une famille, ça peut être l'église, ça peut être un groupe, quel qu'il soit, est-ce que la première question que nous ne devons pas nous poser, c'est qu'est-ce que je dois changer en moi ? Je pense qu'on a souvent tendance à dire un tel, il est trop comme si, l'autre, il est trop comme ça. Mais peut-être que déjà, la première question, c'est qu'est-ce que je dois changer en moi ? Alors, je crois que la première chose, c'est de prendre conscience de notre besoin de changer. Et ça, c'est pas une fois. C'est pas le jour où nous sommes venus à Jésus-Christ, où nous sommes devenus des chérubins parfaits, avec des petites ailes dans le dos. C'est régulièrement faire le point sur ce que nous sommes, ce que nous éprouvons dans notre cœur. Et de comparer, de reprendre la liste qu'on avait tout à l'heure et dire, bon, j'en suis où ? Est-ce que je suis un homme, une femme, de patience ? De bonté, de foi, d'amour, de bienveillance. Cela s'appelle essayer de voir avec les yeux de Dieu ce que nous sommes. On peut même l'appeler au secours. C'est ce que fait un auteur de psaume, psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Cette vieille prière, le psaume 139, il ne date pas d'hier. Il a 30 siècles. Elle est toujours d'actualité pour nous. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Et puis une fois qu'on a fait, on a pris conscience de notre besoin de changer, je crois qu'il faut se laisser changer. Alors, je vous ai lu l'Épître aux Galates parce qu'elle dit des choses intéressantes. Galates 5, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Verset 18, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Et puis le plus terrible, hein, in coda venenum, c'est toujours à la fin que ça se complique. Verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Un changement du tout au tout, c'est comme un peu une conversion permanente, on dira. Hein. Laissez l'Esprit de Dieu me dicter ses priorités. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. On le chante de temps en temps, ça. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Et je crois qu'on en a tous besoin. « C'est une démarche volontaire. Crucifier ses passions. Mettre une croix sur ses désirs. Il y a une personne, un couple que nous aimons bien, qui vient nous voir de temps en temps à l'église et qui nous racontait, il n'y a pas très longtemps, leur vie. Et qui nous disait que la vie a été un calvaire pour eux, leur vie de couple, pendant 3 ans, 4 ans. Jusqu'à ce que l'homme du couple se soit aperçu qu'il avait des exigences envers sa femme qu'il devait abandonner. Et à partir de là, leur vie de couple a complètement changé. Qu'est-ce que je dois changer en moi pour que ça aille mieux? Qu'est-ce que je dois abandonner au Seigneur? Mes rêves de grandeur, mes rêves de pouvoir, mes rêves de richesse. Peut-être que parmi nous, il y en a qui se posent la question, est-ce que je dois abandonner mes rêves d'avoir une maison? Hier, je me suis posé la question, est-ce que je dois abandonner mon projet de venir aujourd'hui à l'église? Non, ça c'est une boutade. Mais être malléable dans la main du Seigneur, mais aussi savoir mettre une croix sur nos désirs et nos passions. Je ne me laisserai asservir par rien, dit Paul. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Tout ça, il le dit dans ses épîtres, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. Si j'ai quelque chose en moi qui m'a servi, je ne suis plus libre pour le Seigneur. C'est aussi une démarche dynamique à remettre sans cesse sur le métier. Paul dit aux Éphésiens, laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ce n'est pas une fois comme ça dans votre vie en passant. Et puis on n'en parle plus le jour de votre baptême ou le jour de votre conversion, peu importe. Mais c'est quelque chose de constant. C'est une croissance. Grandir dans le Seigneur. Un changement dans notre façon de voir les choses, dans notre intelligence. Paul dit aux Éphésiens, chapitre 1, verset 17, « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation. » pour que vous le connaissiez et qu'il illumine votre intelligence. Notre intelligence, elle a besoin d'être illuminée par le Seigneur. Cela suppose une proximité avec le Seigneur, une connaissance de sa volonté, une connaissance de la façon de vivre de Jésus, une connaissance des évangiles et des Écritures. Nous devons changer d'être. Alors, il y a du positif, hein, il a l'air content, cet homme-là. Les conséquences du changement. 3 conséquences. Ça nous permet d'abord d'obéir à la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons lu. Frère, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, selon vos passions, vos désirs. Rendez-vous par la charité, par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi est accomplie, ça veut dire la volonté de Dieu est faite si nous changeons et si nous demandons à l'Esprit de nous rendre malléables, de nous rendre différents, de nous rendre saints. Deuxième point, ça nous permet d'apporter du bien aux autres. Et c'est prévu dans le plan de Dieu que nous apportions du bien aux autres. C'est prévu dans le plan de chacune de nos vies. C'est l'Épître aux Éphésiens qui nous dit ça au chapitre 10. Car par notre union avec le Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. il nous a préparés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance, pas pour que nous passions à côté, dire tiens, il y aurait un truc intéressant à faire là. Bon, je verrai demain. Non, pour que nous les accomplissions. Et enfin, montrer la différence. Cela va nous permettre de montrer une différence. Est-ce que nous ne sommes pas trop timorés, trop, comment on dit, modestes dans nos ambitions, nous les chrétiens? Est-ce qu'on a peur ou est-ce que c'est de la modestie ou est-ce que c'est qu'on ne veut pas se mettre sur les épaules un fardeau? Nous sommes des flambeaux qui portent la lumière au milieu d'une nuit spirituelle. Et je crois que nous n'en avons pas toujours conscience. Et nous avons un témoignage à apporter auprès de ceux qui ne croient pas, sachant que les gens forment leur opinion de Dieu à partir de ce qu'ils voient en nous. C'est terrible. Mais je pense que les gens, quand ils ont une approche de Dieu, ils font leur première opinion, après ça s'affine, mais leur première opinion sur ce qu'ils voient dans les chrétiens. Philippiens 2:12. Ça sera ma conclusion. C'est ce que Paul dit donc à l'épître aux habitants de Philippe. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. Ça veut dire quoi? Vous êtes sauvés, bon d'accord, mais ça doit produire du fruit. Faites fructifier votre salut. Le salut en Jésus-Christ, c'est pas une arrivée, c'est un point de départ pour faire d'autres choses. Non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant quand je suis absent, dit Paul. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. C'est Dieu qui agit en nous pour produire à la fois la volonté de faire et la capacité de le faire. Qu'est-ce qu'il nous reste alors à nous? À pas être un frein, à pas empêcher Dieu d'agir. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être, alors voilà le programme, pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Je vous propose de prier. Change mon cœur, Seigneur. Purifie-moi et aide-moi à le faire. Aide-moi à me débarrasser de tout ce qui peut entraver ta marche en moi, de tout ce qui peut entraver ma croissance spirituelle, de tout ce qui peut gêner le développement en moi du fruit de ton esprit. Aide-moi à faire grandir en moi l'amour, la bienveillance, la paix, la joie, la bonté, la maîtrise de moi, la foi. Que je sois vraiment le reflet de ta personne. Seigneur, aide-moi par ton esprit à transformer mon intelligence et qu'ainsi je puisse vraiment être un témoin de ta personne, un témoin efficace, un témoin agissant. Merci de m'aider, Seigneur, chaque jour, pas qu'une fois, mais régulièrement, j'en ai besoin. Amen.